Bien, bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alain Hérol pour discuter un peu plus précisément donc de D, dont le tome 3 vient de sortir et qui vient donc conclure cette série en 3 tomes. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors, avant d'en venir un peu plus précisément à la série en elle-même, est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à la BD et puis à cette série-là en particulier?
La bande dessinée, parce que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires et de dessiner. Et, enfin, donc la BD s'est imposée un petit peu par elle-même. Suite de quoi, j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême, qui avait une section spécialisée BD. Et là, c'est là que j'ai rencontré Jean-Luc Masbou, notamment, et Bruno Majorana, par l'entremise du dessin animé, et Thierry Le Prévost aussi. Et voilà, donc on a collaboré. Et moi, j'avais déjà travaillé avec Bruno Majorana sur la série Garulfo, qui est un conte de fées humoristique. Et on avait fait une histoire en 6 tomes. Et quand ça s'est achevé, on avait décidé de continuer à travailler ensemble. Mais on n'avait pas vraiment, j'avais pas vraiment d'idée. C'est là que, en discutant, nous est venu, sachant que Bruno était passionné par les vampires, je lui ai proposé de lui écrire une histoire de vampire, mais il m'a un peu mis au défi de trouver une idée originale, parce que lui avait beaucoup lu de choses sur les vampires et savait que le thème avait été exploré en long, en large et en travers. Et encore à l'époque, il n'y avait pas eu ni Twilight, ni True Blood, ni pas mal de productions récentes qu'il y a eu sur les vampires. Donc j'ai cherché une idée, je lui ai raconté, elle lui a semblé suffisamment originale et on s'est lancé, on est parti sur une histoire de vampire, pour le plus grand plaisir de tout le monde, pour le plus grand plaisir de Bruno qui lui pouvait enfin dessiner une histoire de vampire, il avait toujours rêvé de faire ça, et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cet univers. Je connaissais un petit peu, j'avais quand même quelques bases, mais je n'étais pas non plus très pointu dans la matière, et je me suis plongé à la fois dans la littérature vampirique et surtout dans la littérature du 19e et dans une documentation concernant le 19e siècle, parce que dès le début on voulait placer notre histoire de vampire dans le contexte de l'Angleterre victorienne, tout simplement parce que c'est le lieu et l'époque où le mythe est devenu populaire.
Donc avec le Dracula de Bram Stoker notamment.
Le Dracula de Bram Stoker, ça avait commencé bien avant lui, ça avait commencé dès le début du 19e siècle en Angleterre, avec Lord Byron et son secrétaire, le docteur Polidori, qui avait écrit un vampire où il mettait en scène son maître, Byron, dans un des premiers vampires, on va dire, dandy et séducteur. Et après, il y a eu Sheridan Le Fanu avec son Carmilla. Une histoire de femme vampire, il y a eu Théophile Gautier, La Morte Amoureuse, il y a eu beaucoup de même Goethe a écrit un petit poème sur les vampires, hein. Ça s'appelle La fiancée de Corinthe. Et à la fin du 19e siècle, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que Bram Stoker écrive son Dracula, qui allait donner enfin ses lettres de noblesse aux vampires et en faire un personnage qui allait dépasser la littérature à proprement parler pour rentrer dans la culture populaire, puisqu'il allait devenir très vite, avec le cinéma naissant, un héros de cinéma.
Et justement, avec tout le... Bon, il y a eu tous les films, etc., maintenant, qui se passent de manière contemporaine. Est-ce que pour vous, le vampire, finalement, c'est quand même... Oui, alors, très lié à l'époque victorienne.
Oui, parce que justement le fait de placer un vampire dans le monde contemporain, c'est plus très original. Ça s'est beaucoup fait depuis au moins les années 60. Et il y a eu des films, des bouquins là-dessus. Il y a eu tous les livres d'Anne Rice qui a fait une réactualisation, bonne réactualisation du mythe du vampire en l'ancrant à la fois dans le passé et dans l'époque contemporaine. Et puis après, depuis, il y a eu, avec plus ou moins de bonheur, pas mal de récits de vampires contemporains, quoi. Mais donc l'idée, pour être original, c'était pas justement de le réactualiser, mais plutôt de le remettre dans son époque, de revenir aux sources du mythe et de revenir à l'époque qui les a vus naître dans la culture populaire, à savoir le 19e siècle. Et qui a vu naître les vampires, mais pas que les vampires, hein, qui a vu naître aussi toute une littérature fantastique. Bon, il suffit de voir ce qu'a fait Alan Moore avec la Ligue des Gentlemen extraordinaire. Tous ces personnages de la littérature fantastique qui sont apparus à peu près à la même époque, dans l'Angleterre victorienne, c'est pas tout à fait un hasard. C'est l'époque de Stevenson et de son Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est l'époque de de Dorian Gray. C'est l'époque de toutes les grandes figures de la, du fantastique. Et Frankenstein au début du 19e aussi. C'est pas tout à fait un hasard. Tout ça est apparu dans une époque où, dans l'essor d'une société bourgeoise très puritaine, avec des valeurs très, très conservatrices, une société très corsetée, très, où toutes les pulsions et les instincts étaient réprimés. Donc, c'est pas un hasard si toute cette littérature basée sur l'expression de pulsions plus ou moins dévastatrices et soit charnel, soit morbide, c'est pas un hasard si cette littérature-là a eu cet essor dans ce siècle-là.
Effectivement, enfin, moi ce que j'ai noté dans la BD justement, et dans la série en elle-même, c'est que il y avait un rapport avec l'industrialisation aussi, le changement, le fait qu'il y ait, ce soit un peu deux époques finalement qui se percutent quelque
part. Oui, il y a une évolution dont on était parti l'idée que les vampires étant des prédateurs en haut de l'échelle écologique, ils vont forcément chercher à atteindre les hautes sphères de la société humaine et donc vont faire partie de la classe dominante. Et quand les vampires qui apparaissent au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle, ça va être des aristocrates, des nobles, et qui vont se nourrir de paysans. Mais quand la révolution industrielle passe par là, ils vont devenir des bourgeois, des patrons, et ils vont se nourrir de prolétaires. Logique. Et on assiste aussi, dans le récit, sans déflorer trop, on assiste aussi à l'apparition d'une troisième stade de développement du vampire, qui n'est pas sans rappeler certains vampires qui sévissent actuellement. Voir le monde de la finance.
Effectivement. Et juste, alors ce qui est intéressant vraiment dans cette série aussi, c'est qu'il y a la tension qui monte d'un volume à l'autre, jusqu'à un final, moi personnellement je l'ai trouvé exceptionnel. Après, est-ce que ça n'avait pas été dur de maintenir cette tension jusqu'au bout, sans trop en dévoiler trop vite, sans agencer tous ces éléments-là? Est-ce que ça a été difficile sur ces trois tomes?
Ça a été, l'idée était d'avoir une histoire qui aille crescendo, mais de par paliers très 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 progressifs. Quand le tome 1 est sorti, nous on savait qu'on avait une histoire assez original et qui allait avoir cette montée en puissance au fur et à mesure des tomes, mais certains lecteurs avaient été un peu déçus en trouvant que c'était un tome d'exposition, un petit peu long, un petit peu bavard, qui se passait finalement pas grand-chose, et que c'était pas très original finalement. On avait une histoire de vampires qui hantait les rêves d'une jeune lady avec des chasseurs de vampires, enfin, tout ça, c'est dans l'Angleterre victorienne, ça sonnait très classique. En fait, bon, il y avait évidemment dans le tome 1, il y a déjà les germes de ce qui va se passer plus tard, il y a pas mal d'indices qui sont semés tout au long de l'histoire. Et surtout dans le tome 1, le tome 1 est assez feutré finalement. Il y a très peu de violence, très peu de sexe. On est dans l'Angleterre victorienne, que diable. Et très peu de. Et finalement, une tension qui ne commence à apparaître vraiment qu'à la fin de l'ouvrage. Même si auparavant, par petites touches, la pression de la société, justement cette espèce de marmite, le couvercle posé sur des instincts et des pulsions prêtes à exploser, concourt à la création d'un sentiment de crescendo vers quelque chose qui va aller vers un climax, quoi.
D'ailleurs, le personnage de Richard Drake est un peu représentatif de cette société victorienne, donc à la fois très puritaine, mais en même temps il a été un peu en dehors, donc du coup il est un peu entre deux eaux finalement.
Lui il est un petit peu en dehors, parce que c'est justement un personnage qui étouffe dans cette société là et c'est pas un hasard non plus si c'est une période qui a engendré beaucoup d'explorateurs et de hardis aventuriers qui sont partis à l'autre bout du monde pour essayer de vivre autre chose, de vivre plus intensément que dans le cadre étriqué que leur proposait la société de l'époque. Richard Drake est inspiré d'un personnage réel qui s'appelle Richard Burton, qui était un explorateur qui a participé à la découverte des sources du Nil et qui a bourlingué de par le monde et qui était un personnage très étonnant, une sorte de super-héros. Si on l'avait utilisé tel quel dans l'histoire, il n'aurait pas été crédible. C'est un peu, on a été obligé de le raboter un peu pour qu'il rentre dans les cases et qu'on arrive à obtenir une certaine crédibilité. Donc ce personnage-là est emblématique de cette frange d'excentriques ou de gens un petit peu trop grands pour le costume étriqué que la société leur proposait. Mmh. Il y a aussi un autre. Oui, d'ailleurs, la société. Enfin, il n'y avait pas que des explorateurs solitaires non plus qui partaient chercher loin de l'aventure. Il y avait aussi de jeunes gens qui partaient en masse vêtus d'un casque colonial, d'un fusil à baïonnette et de préjugés, et qui partaient massacrer de l'indigène pour le nom au nom de la couronne ou de la République en France. Nous avions aussi nos troupes coloniales, mais c'est aussi à cette époque-là qu'il y a eu l'essor du colonialisme. Et tous ces jeunes gens énervés par le fait qu'ils étaient dans une société très resserré, pouvaient aller épancher leur trop-plein d'énergie dans les colonies où justement l'appétit vorace de l'Europe pouvait se rassasier. Et c'est pour ça que dans notre histoire, on trouve aussi quelques analogies entre l'empire colonial et le vampire.
Oui, avec le... effectivement. Et d'ailleurs, le vampire, il y a aussi le vampire... Il y a toute une thématique du vampire, mais qui n'est pas centrée uniquement sur la créature fantastique.
Mon idée de départ, c'était de parler de vampires, mais en me penchant sur l'époque, donc sur le 19e siècle, je me suis rendu compte qu'il y avait en germe beaucoup de parallèles. Il y avait beaucoup de parallèles à faire entre le personnage du vampire mythologique, mais aussi avec les... avec toutes sortes de vampires, qui soient via l'argent, via la violence, à travers la colonisation, à travers l'industrialisation, à travers les rapports humains. Dans notre histoire, on touche à diverses figures du vampire, mais qu'elles soient métaphoriques ou bien concrètes. Et il n'y a pas un seul vampire, ni deux, ni trois dans cette histoire, mais bien plus.
Effectivement. C'est ce qui donne aussi la touche personnelle à cette histoire, c'est que voilà, on a une. C'est une variation finalement autour du thème du vampire et qui n'est pas centré uniquement.
Qui va jusqu'au rapport humain entre les différents protagonistes, qui certains en vampirisent d'autres, mais de manière très réaliste, comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours.
Effectivement, et donc. Plus par rapport au récit, à la façon dont le récit s'agence. Alors là, dans ce troisième volet, on a des extraits de journal. Alors, est-ce que c'est une façon aussi de faire un peu une pause dans la façon d'écrire les dialogues
ou... Non, c'est dès le début, en fait, dès le tome 1. Dès le tome 1, le Dracula de Stoker est un roman épistolaire, qui s'ouvre sur les mémoires de Jonathan Harker, et qui ensuite se poursuit avec diverses lettres. Donc, l'idée dès le début, c'était d'encadrer le récit direct, à part des épisodes de flashback avec un texte off, soit épistolier, soit extrait de journaux, soit des extraits de livres. Il y a le journal d'un mort vivant qui est ce livre qui sous-tend toute l'histoire, qui a été écrit par le fameux comte D. Et il y a aussi les récits de voyage de Drake. Il y a aussi des lettres de divers protagonistes, et il y a aussi des divers journaux. Il y a le journal de Catherine, le journal intime de Catherine. Il y a un début de journal de Betty à la fin, et il y a aussi des articles de presse.
Ça permet d'avoir un peu de variété aussi au niveau de la lecture.
Oui, voilà, ça permet de varier la narration et d'alimenter le puzzle, le côté puzzle enquête, que le lecteur ait le sentiment de participer à une enquête avec divers éléments qui lui arrivent par des sources variées.
Finalement, on se retrouve un peu dans la place d'un joueur un peu de jeu de rôle qui va récupérer des éléments.
Oui, voilà, c'est tout à fait. Ça, c'est certainement une déformation de maître de jeu, d'ancien maître de jeu, de fournir des indices comme ça, des coupures de presse et autres lettres. Mais voilà, ça donne un côté ludique à la lecture.
Ça permet de. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de textes. Alors, je ne sais pas, les lecteurs actuels un peu biberonnés au manga, etc., sont peut-être habitués à avoir un petit peu moins de texte, je ne sais pas, mais est-ce que c'est
pas... Je veille à à le doser, le texte, justement. Je sais qu'il y a des gros pavés, il y a certains personnages qui sont extrêmement bavards dans cette histoire. Il y a par exemple le dandy Swindley qui est un incurable bavard et qui est même mort, continue à parler. et donc c'est des personnages comme ça, ils vont occuper un bon tiers de la page rien qu'en phylactère. Mais il y a aussi des scènes muettes, il y a des personnages qui ont des courtes répliques. Et j'essaie d'alterner des scènes muettes où c'est le dessin qui parle, et avec des scènes bavardes et des répliques un peu plus du tac au tac. Mais cela dit, il y a quand même une densité de texte assez importante. Quoi. Et je me suis rendu compte, moi j'ai déjà l'habitude de faire des bandes dessinées assez bavardes. Dans De Cap et De Gros, par exemple, il y a des longues tirades et de grandes phrases. Mais je me suis aperçu que dans D, j'ai eu une certaine difficulté à trouver le ton juste pour les dialogues, parce que je cherchais à faire parler les personnages de manière un petit peu empoulée, sous les personnages de la haute société britannique, mais je voulais que ça sonne bien 19e siècle. C'est aussi pour ça que j'ai relu beaucoup de romans du 19e, pour essayer de retrouver un peu le ton. Je suis allé pas mal regarder du côté d'Oscar Wilde, notamment pour les scènes pour une certaine façon de lancer des répliques et des aphorismes. Ce ton n'avait pas été évident à trouver. J'avais tendance au début à les faire parler un petit peu comme dans De Cap et De Croc. D'ailleurs, ça m'a amusé de refaire parler certains vampires donc, qui ont connu le 17e ou le 18e siècle, de les refaire parler un petit peu à la De Cap et De Croc, pas avec des tournures de phrases qui font un petit peu archaïques pour le 19e siècle déjà.
Ouais, donc ça permet de varier aussi les plaisirs et puis le phrasé. Et au niveau du dessin, justement, par rapport à la façon dont le texte va se marier avec le dessin, comment ça s'est passé au niveau de la collaboration avec...
Bon, la collaboration était bien rodée, la façon de travailler était bien rodée avec Bruno, puisqu'on avait on avait déjà 6 albums en commun. C'est aussi d'ailleurs pour le coloriste, avec qui Thierry Le Prévost, avec qui on avait travaillé sur Gare Ulfo aussi. Donc voilà, moi je fournissais un storyboard à Bruno, puis voilà, il y a des échanges après, et puis... Et puis voilà quoi, donc là, ce qu'il y a, c'est que là, Bruno a pu s'en donner à cœur joie sur tout le registre victorien, sachant que cet album-là, la vie française des précédents, on va s'aventurer dans le côté industriel de l'époque, oui, on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à présent, et là voilà, de l'acierie, du boulon et de la structure éphélienne. En veux-tu, en voilà, ce qui n'est pas une mince affaire à dessiner. Il y a eu un travail assez considérable que Bruno a dû fournir sur cet album-là.
Effectivement, c'est vrai qu'on est un peu... Disons que dans les premiers albums, on est plus dans la version un peu... ce qu'on connaît de l'ère victorienne, on a un côté un peu imaginaire, avec le côté un peu désuet.
Oui, c'est le côté un peu... Pour prendre des références cinématographiques, j'avais dit à Bruno qu'on allait passer de James Ivory à Ken Loach, au niveau de l'évolution dans le paysage. Et encore, bon, la dimension Ken Loach n'a pas pu être très... exploité autant que j'aurais souhaité, parce que ça devait être un peu plus, il devait y avoir un volet social plus développé dans l'histoire, mais les nécessités du récit ne permettent pas toujours d'aller ou de développer tout ce qu'on voudrait développer. Si on veut garder un certain rythme,
effectivement, mais ça ressort quand même. Je pense que ça ressort quand même au niveau du... Alors, c'est plus en arrière-plan, mais...
Voilà. Il y a beaucoup de thèmes, en fait. Dès qu'on s'attaque aux histoires de vampires, c'est un mythe. C'est pas un hasard si, encore aujourd'hui, il y a de nouvelles productions. Tous les ans, il y a un nouveau film, livre, BD de vampires qui sort. C'est pas un hasard, parce que c'est un thème qui est très très riche. Ça fait appel à beaucoup de mythes... fondateur de l'humanité. Ça parle d'immortalité, ça parle de séduction, de prédation, ça parle de beaucoup de choses. Et quand on commence à creuser, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et en fait, oui, c'est pour ça que beaucoup de thèmes sont là en filigrane, en background dans le récit, et ne sont pas spécialement mis en avant.
Mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'il aurait fallu peut-être faire 10 volumes pour arriver à tout développer.
Il y, y avait la, par exemple la couverture qui a pu paraître étrange à certains. Et qui, voilà, qui,
elle évoque le portrait, le cri de Munch.
En fait. Oui, petit côté cri de Munch, elle a quelque chose du portrait de Dorian Gray.
De Dorian Gray aussi, oui.
Voilà, et c'est un petit peu une sorte de portrait de Dorian Gray, quand on le, puisque c'est censé être un portrait de l'âme, un autoportrait de l'âme du méchant, du vampire en chef. Et c'est donc il y a une idée de Dorian Gray, mais en fait l'idée de départ c'était pas Dorian Gray, c'était parti d'un peintre véritable qui s'appelle William Uther Molen, qui est un peintre qui était spécialisé dans les autoportraits et qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Et quand il a commencé à avoir la maladie d'Alzheimer, il a continué ses autoportraits et il s'est astreint à continuer ses autoportraits. Mmh. Et ce qui fait que ses autoportraits, on voit sa perception de lui-même à travers la maladie et avec le vide que crée en lui la maladie. Mmh. Et c'est assez saisissant, c'est quelque chose c'est assez fascinant et effrayant et en tout cas très saisissant, ces autoportraits. Et l'idée c'est qu'on a des personnages immortels, un vampire c'est immortel, ça vit très très vieux, mais peut-être que sur la fin de ses jours le vampire ça commence à avoir des trous de mémoire, et avec au bout de quelques centaines d'années on commence à ne plus tellement se souvenir du passé. Et ça c'est un thème qui n'est pas vraiment développé dans l'histoire, mais qui est là quand même en filigrane à travers les divers vampires auxquels on a affaire, qui ont qui cherchent à se raccrocher au passé ou à le fuir, et qui sont souvent victimes d'oubli. Et donc voilà, cette thématique du tableau où une espèce de décomposition de l'âme, qui est à la fois cette idée d'Alzheimer, cette idée de portrait de Dorian Gray, je trouvais que c'était quelque chose de très... c'est un thème assez puissant, qu'on n'a peut-être pas assez exploité. C'est un petit regret que j'ai, mais ça mériterait un album en soi.
À lui seul. Au niveau de la couverture, c'est vrai que c'est saisissant qu'on voit la couverture. C'est vrai que dans l'album, ça apparaît.
Oui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais en même temps, ça résume bien quand même le enfin voilà. On a le visage monstrueux de qui est le comte D. On va le découvrir enfin dans ce tome-là, et quel est son vrai visage. Et son vrai visage, c'est quand même celui-là. C'est un visage monstrueux.
Mais j'avais trouvé justement aussi que parmi les vampires, certains étaient aussi finalement très humains dans leur comportement, et que l'immortalité, le temps passé, les avait rendus pas inhumains en tant que tels, mais avait exacerbé finalement quelque part leur mauvais côté au détriment des bons.
Ça c'est pas un thème très original, parce que ça a été pas mal développé ça par Anne Rice avec ses vampires, entre les stats, le vampire qui assume totalement sa condition de tueur en série, et Louis qui essaie de garder son humanité tant bien que mal. Ça avait déjà été développé, mais c'est vrai que c'est un thème qui est intéressant, mais qu'on retrouve un petit peu chez certains personnages dans cette histoire là. D'autres étant certains assumant pleinement le mal incarné qu'ils sont devenus, et d'autres...
Peut-être un peu moins. Bien, donc on va peut-être pas trop continuer dans le... Ne pas trop en dévoiler pour laisser au lecteur le soin de découvrir qui est le comte D exactement, laissons au lecteur le loisir de le découvrir. Et sinon pour les projets, alors maintenant que cette série est terminée, qu'est-ce qu'on peut attendre comme série par la suite ?
De mon côté, je suis sur un projet solo qui s'appelle L'âge des chiens, qui est une histoire d'horreur fantasy que je vais dessiner moi-même, donc je suis en train de réaliser, qui devrait sortir normalement en 2015. Je suis aussi sur un scénario pour un one-shot assez conséquent, avec au dessin Rondreau Guarnido, qui est une histoire qui s'appelle Les Indes de Fourbe, qui est un récit picaresque sur lequel nous sommes en train de travailler. Et il y a aussi la suite de Cap et de Croc. En fait, la suite, si on peut parler de suite, c'est plutôt une sorte de préquel, de prologue, avec le récit de comment Euseb, le lapin, a été condamné aux galères. Voilà, et là, moi j'ai fini c'est une histoire en deux volumes, moi j'ai fini les premiers, Jean-Luc Masbou est en train de finir aussi, là il va avoir fini cet été, donc cet automne il sera disponible chez tous les bons libraires. Voilà.
D'accord, donc
voilà, et ça, il y aura encore ensuite un deuxième tome pour boucler l'histoire. Et là, ça sera le petit bonus de 2K et de Croc qui sera terminé. Et
on en sort un peu plus sur EZ.
Voilà. Et sinon, après, de son côté, Bruno Majorana, lui, de son côté, a décidé d'arrêter la bande dessinée parce qu'il. Son type de dessin est très poussé, très exigeant, ne lui permet pas d'avoir la cadence suffisante pour pouvoir en vivre décemment. Voilà, ce qui est assez représentatif d'un malaise général chez les auteurs de bande dessinée actuellement.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces éclairages sur la série. Et on attend avec plaisir de pouvoir lire aussi le passage sur Euseb, et puis en espérant que la situation s'arrange aussi pour les auteurs de bande dessinée en général, parce que c'est vrai que c'est pas génial en ce moment.
Non.
Merci encore.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.